avec Catherine Janisson qui est sénatrice du Pas-de-Calais. Vous êtes vice-présidente de la commission des affaires sociales. Hein, c'est la commission qui a examiné cette semaine le texte de loi, la loi travail. C'est un texte de loi que vous soutenez ?
C'est un texte de loi que je soutiens, mais comme tout parlementaire, je m'autorise au droit d'amendement.
Alors, pour quelles raisons vous soutenez ce projet de loi auquel beaucoup de Français s'opposent ?
Si vous voulez, je pense qu'il faut faire peut-être une différence entre les enquêtes d'opinion que l'on vit aujourd'hui et la façon dont la majorité silencieuse des Français reçoit le texte. Et je pense que malheureusement, on connaît très très mal ce texte. On parle beaucoup de l'article 2 du texte qui traite du sujet des accords d'entreprise sur un sujet très précis, c'est-à-dire l'organisation du temps de travail et le sujet de la majoration des heures supplémentaires. Mais on ne parle pas de toutes les mesures qui sont extrêmement positifs pour le texte. Alors, sur l'article 2 qui parle des accords d'entreprise, très sincèrement, je pense qu'on n'est pas dans le sujet de la hiérarchie, l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire un accord de branche qui protège un accord d'entreprise, l'accord d'entreprise ne pouvant jamais être inférieur à l'accord de branche. Je pense qu'on est dans un sujet où l'accord d'entreprise est protégé parce qu'il est associé au fait que c'est un accord qui doit être majoritaire, c'est-à-dire on n'est plus à 30% de syndicats qui doivent avoir signé l'accord, mais 50%, qui a la possibilité, quand il y a 30% des syndicalistes qui ne sont pas d'accord avec l'accord qui a été signé, d'avoir un référendum, mais demandé par les organisations syndicales, et avec le fait que l'employeur seul ne peut pas déclencher cette consultation des salariés, et avec le fait qu'on donne plus de moyens aux syndicats, puisqu'il y a 20% d'augmentation d'heures syndicales. Et le sujet est quand même cantonné à l'organisation du travail et à rien d'autre. Par exemple, la négociation salariale, qui est une négociation tout à fait fondamentale, l'accord de branche reste prédominant par rapport à l'accord d'entreprise. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'accords d'entreprise qui sont signés et que le syndicat, le principal syndicat très opposé à cet article 2, la CGT, signe beaucoup d'accords d'entreprise. Il faut savoir que la CGT a signé à peu près 80% d'accords d'entreprise quand il y a eu des accords d'entreprise. Donc cet article 2 valorise beaucoup le dialogue social. Alors les organisations syndicales, en particulier la CGT et les FO et la CGT sont inquiets parce que c'est aussi le sujet du rapport de force des syndicats, des organisations syndicales dans notre pays. Mais je pense que, moi, l'analyse que je fais, c'est que, en fait, on peut, au contraire, augmenter la valeur et la place des syndicats grâce à l'augmentation du dialogue social. Et c'est quand même un dialogue social qui se situe au plus près du terrain, donc au plus près des salariés et de l'organisation du travail dans l'entreprise. Alors bien évidemment, je pense que ce sujet prendra toute sa valeur dans les petites et moyennes entreprises. C'est vrai que dans les grandes entreprises, on est dans des relations qui sont peut-être plus difficiles, mais où le sujet de l'accord de branche existe tout à fait. Et je pense vraiment que ça peut être très très intéressant pour l'organisation du travail dans les petites et moyennes entreprises, sans ignorer que le rapport de subordination existe, c'est-à-dire que s'il y a le code du travail, s'il y a les accords de branche, c'est parce qu'on sait très bien que l'employeur a une force supérieure aux salariés dans l'entreprise. C'est ce qu'on appelle la subordination. Ça existe. Et je pense vraiment... Alors, moi, sur cet article 2, ce sur quoi je suis vigilante, c'est de voir comment on peut quand même donner à la branche au moins un droit de regard par rapport à l'accord d'entreprise. Et deuxièmement, je pense que le sujet des majorations, du taux de majoration d'heures supplémentaires devrait pouvoir être retiré de l'écriture de la loi aujourd'hui sur l'article 2. Par contre, ce que je pense aussi, c'est que ce texte apporte beaucoup de choses par rapport à l'existant aujourd'hui, en particulier avec le compte personnel d'activité qui comprend le compte personnel de formation, qui comprend le compte pénibilité et qui comprend le compte engagement citoyen. Et ça, je pense que, si vous voulez, c'est la carte d'identité professionnelle du salarié tout au long de sa vie. on est dans une logique complètement inversée par rapport à ce qui existe aujourd'hui, où le salarié est quand même dépendant des règles qui existent dans l'entreprise. Le salarié va aujourd'hui, certains disent, avoir son sac à dos avec lui pour défendre ses droits, en particulier en matière de formation, et en particulier pour les plus précaires qui n'ont pas de formation initiale. Aujourd'hui, ils ont droit à 15 heures de formation par an. Là, ça sera 40 heures par an. Et au lieu d'avoir un droit général à 150 heures sur le cours de la vie, ça sera 400 heures supplémentaires de formation. Donc là, je crois qu'on est vraiment sur l'aspect formation professionnelle et droit universel à la formation à une avancée très, très importante. Sur le compte pénibilité, on est également sur un sujet très important. Bon, le compte pénibilité, c'est nous qui l'avons introduit quand on a introduit la loi retraite. Mais c'est vraiment un hiatus et une rupture qu'on a avec la droite qui considère que prendre en compte la pénibilité, c'est trop complexe, c'est difficile, c'est impossible à mettre en place, alors même qu'on sait très bien que un ouvrier a une espérance de vie, en tout cas en bonne santé, inférieure de 7 ans à celle d'un cadre, par exemple. Donc le sujet de la pénibilité est un sujet tout à fait fondamental. Et les comptes personnels citoyens, si vous voulez, c'est le fait aussi de prendre en compte des actions bénévoles qui sont menées par les uns et par les autres et qui sont très importants, j'allais dire, à l'amélioration, à la qualité de la vie de nos concitoyens. Donc ce compte personnel d'activité que je considère être la carte d'identité professionnelle du citoyen, le sac à dos du professionnel, inverse complètement, c'est le citoyen a ses droits qui sont transférables d'une entreprise à l'autre quand il pourra changer d'entreprise. Ça, je crois que c'est quelque chose de très important. La deuxième chose très importante, c'est la garantie jeune. C'est la possibilité pour des jeunes qui n'ont pas de formation de pouvoir pendant un an disposer d'une mensualité de 476 € et quelques centimes par mois pendant un an, renouvelable 6 mois. Pour l'instant, il y a 50 000 jeunes qui ont droit à cette garantie jeune. On pense que d'ici la fin de l'année 2016, il y en aura à peu près 100 000. Et si vous voulez, ce qu'il y a dans la loi, c'est la généralisation de cette garantie jeune sur l'ensemble du territoire pour l'ensemble des jeunes de 16 ou 18, je ne sais plus, 16 à 25 ans. Ça, je crois que quand le sujet du chômage des jeunes et de l'entrée dans la vie active des jeunes est une priorité aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Ce qu'il y a de très important dans la loi aussi, c'est le droit à la dérogation. On connaît beaucoup l'importance du numérique, de l'informatique qui est entrée dans le travail des salariés aujourd'hui, le travail des cadres, mais pas seulement. Et la possibilité de pouvoir, à un moment donné, avoir le droit, opposer son droit à la dérogation, c'est-à-dire de ne plus répondre à des mails le dimanche, la nuit à 2h du matin, je crois que c'est quelque chose également de très très important. Il y a également le sujet de la réforme de la médecine du travail. En tant que médecin du travail, puisque je suis anesthésiste, mais j'ai également mon diplôme de médecine du travail, je pense que ces textes apportent des améliorations, mais néanmoins, j'ai eu l'occasion de m'entretenir plusieurs fois avec Madame la ministre. Je pense qu'on doit garder une visite liée à l'embauche pour tout salarié. Si vous voulez, dans le texte, on dit que pour les postes à risque, il y a une visite obligatoire à l'embauche, mais que pour les autres salariés, il y a une visite d'information et de prévention. Je pense que d'insister sur le sujet de la prévention est quelque chose de tout à fait fondamental, mais ça doit être associé quand même à l'analyse de la situation, de l'adaptation, stabilité du salarié par rapport au poste qui lui est proposé. Ce n'est pas parce que un poste n'est pas à risque qu'il n'y a pas un risque pour le salarié à occuper un poste X ou Y. Et ce n'est pas forcément de déclarer une inaptitude, mais c'est au moins d'informer le salarié qu'il faudrait qu'il soit vigilant sur les qualités qu'il faut avoir pour occuper un poste. Il y a d'un côté des postes à risque, mais il y a aussi l'analyse de de l'aptitude du salarié à occuper un poste. Par exemple, quelqu'un d'excessivement timide, est-ce qu'il peut interviewer des gens facilement ? C'est une question. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas, parce qu'il est timide, ne pas l'embaucher, mais il faut l'informer qu'il faudra qu'il valorise ses qualités ou qu'il bénéficie d'une formation, par exemple, si c'est quelqu'un d'anxieux, très timide. Vous voyez, mais ça, je crois que c'est très important. Alors après, si vous voulez, moi, en tant que sénatrice au Sénat, le Sénat est à une majorité de droite, ce que nous mettrons en évidence, nous, dans le débat parlementaire, c'est l'opposition de ce texte par rapport à ce que propose la droite. Parce que la droite, lors de la commission, a quand même supprimé les 35 heures. hein, a quand même supprimé le plancher des 24 heures pour le temps partiel, a quand même supprimé le principe de l'accord majoritaire à 50%, alors que l'accord majoritaire à 50%, ça avait été voté dans la loi Fillon en 2008. Mais ça ne les arrange pas qu'il y ait l'accord majoritaire à 50%. Ils ont amaigri le compte personnel d'activité de façon très importante, en remettant en cause le compte pénibilité, mais ça, c'est à chaque fois qu'on parle de la pénibilité, ils la remettent en cause, et en supprimant du compte personnel d'activité le compte personnel citoyen. Ils ont supprimé aussi sur les droits sociaux la possibilité d'avoir des délégués du personnel pour les entreprises de plus de 11 personnes en amenant le seuil à 20 et en supprimant le seuil de 50% pour avoir droit à un comité d'entreprise et un comité d'hygiène, de santé et de sécurité pour les entreprises en passant le seuil de 50 à 100. Ils ont donc aussi supprimé l'accord majoritaire et ils ont rétabli l'apprentissage à 14 ans et avec des durées de journée à 10 heures. Donc si vous voulez, on va être vraiment dans une confrontation de projets sociaux entre la droite et la gauche qui sera tout à fait démonstratif de ce que c'est quand même la droite et la gauche, si vous voulez. Donc au-delà des sujets sur lesquels j'interviendrai, moi, à la fois sur l'article 2, sur la médecine du travail, l'article sur le licenciement économique, avait fait beaucoup parler de lui, n'étant plus un sujet, puisqu'on est revenu finalement à ce qui existe aujourd'hui dans le Code du travail, on aura, si vous voulez, à être très très présent sur le débat qu'on aura dans l'hémicycle, mais avec vraiment la volonté également de montrer la différence entre la droite et la gauche.
Dans les manifestations, donc il y a des milliers, des millions de personnes qui sont descendues dans la rue, pas juste la CGT et FO. Il y a des gens qui occupent des places, hein, y compris ici, même si c'est un nombre limité de personnes à Arras. Il y a une pétition en ligne qui approche le million et demi de signatures et beaucoup d'autres choses. Ces gens-là dénoncent une libéralisation du marché du travail. Et là, ce que vous nous dites, c'est qu'ils n'ont pas compris le texte. C'est pas ça l'esprit de ce texte.
Alors, je dirais pas qu'ils n'ont pas compris les textes. C'est nous qui l'avons mal expliqué. Je pense que il faut dire aussi qu'il y a quand même des syndicats qui défendent le texte. Ce qu'on appelle les syndicats réformistes, au premier chef desquels se situe la CFDT, qui défendent le texte. Et je pense que, si vous voulez, on a eu beaucoup d'erreurs de communication. D'abord, dans un premier texte qui a fuité dans la presse, alors très sincèrement, je ne sais pas comment, mais qui est effectivement un texte de provocation. Et ensuite, la négociation avec les organisations syndicales a sans doute été trop tardive. Et je pense, si vous voulez, qu'on ne répond pas assez sur ce qu'apporte ce texte, qui est vraiment un texte de promotion du dialogue social. Et sur l'article 2, si vous voulez, sur l'article qui valorise l'accord d'entreprise, je pense que nous ne nous exprimons pas assez avec le fait que je vous dis que nous devons trouver, ce qui n'est pas facile, puisqu'à partir du moment où on fait la promotion de l'accord d'entreprise, c'est vrai que l'accord de branche est en deçà de l'accord d'entreprise, mais on doit quand même trouver le lien qui doit perdurer entre l'accord d'entreprise et l'accord de branche, et on doit travailler sur le sujet de la majoration des heures supplémentaires. Mais je pense que les revendications, les revendications des organisations syndicales et des personnes qui sont dans la rue sont essentiellement sur le sujet de l'article 2. Et ces personnes n'ont pas connaissance suffisamment de tout ce qu'apporte le texte, ce que j'ai évoqué avec vous, sur le sujet de la garantie jeune en particulier, sur le sujet du compte personnel d'activité, qui est vraiment une révolution dans la place du salarié dans sa vie professionnelle, l'appropriation du salarié de sa vie professionnelle. Mais je pense que c'est à nous. Moi, je ne fais pas grief à ceux qui sont dans la rue. Je dis que nous avons un devoir d'explication. Je vous remercie d'ailleurs de me donner la parole. Mais j'espère que je pourrai aussi m'exprimer très très largement. Enfin, je m'exprimerai très largement dans l'hémicycle pour faire à la fois indiquer ce que je souhaite voir améliorer dans le texte. Et par exemple, sur le sujet de la médecine du travail, j'aurai des propositions assez précises à faire. Sur l'article 2 également. Et en même temps, sur ce qu'il y a de bien dans le texte. Et quand même faire comprendre à nos concitoyens qu'il y a une vision de gauche de l'organisation sociale de notre pays et une vision de droite où là vraiment quand même je pense que ça sera très significatif.
Vous en avez parlé un peu, le nœud du problème, c'est la place du dialogue social, de la démocratie finalement dans l'entreprise. On a du mal à imaginer, c'est vrai qu'on prend souvent l'exemple de la grande distribution, parce qu'on sait que pour les syndicalistes, les gens syndiqués même, dans ces entreprises, c'est extrêmement difficile. Hein. Donc on a du mal à voir comment il pourrait pas y avoir un déséquilibre dans ces grandes entreprises au niveau du dialogue justement.
Je crois, si vous voulez, je crois vraiment que les organisations syndicales doivent s'approprier ce texte, parce qu'on est quand même dans le cadre de l'accord majoritaire. Ça veut dire que s'il n'y a pas 50%, des organisations syndicales qui sont d'accord, il n'y a pas d'accord. Il faut quand même, et on en reste au texte actuel, c'est-à-dire à l'accord de branche et à la référence au code du travail. Je crois qu'il faut, et les organisations syndicales vont avoir 20% d'heures syndicales supplémentaires de pouvoir exister et exercer leur activité syndicale au sein de l'entreprise. Ça, je crois que c'est quand même quelque chose de très important. Quand il n'y a pas 50%, il n'y a pas d'accord. Donc, il faut quand même faire confiance au pouvoir de conviction des organisations syndicales pour penser qu'elles vont pouvoir se faire entendre. Et ce qu'il faut dire, c'est que dans la vie de tous les jours, dans la vie du quotidien, il y a beaucoup d'accords d'entreprise qui sont signés aujourd'hui. Alors, je pense que le dialogue social va être très important dans les petites, moyennes entreprises. Parce qu'il y a aussi pour les toutes petites entreprises qui n'ont pas de délégués syndicaux, qui n'ont pas de délégués du personnel, la possibilité d'avoir le mandatement, c'est-à-dire d'avoir un salarié qui peut être mandaté par une organisation syndicale pour conduire le débat syndical, la négociation sociale à l'intérieur de l'entreprise. Donc ça, je pense que il y a des outils, si vous voulez, qui existent dans la loi pour valoriser le dialogue social. Alors, je vous le disais au début de l'entretien, on sait qu'il y a une relation de subordination entre le salarié et le chef d'entreprise. Ce dont pâtit notre pays aussi, c'est le manque de syndicalisation des salariés dans la vie sociale. Parce que finalement, les organisations syndicales ont plus de salariés des fonctions publiques qui sont syndiqués que dans le secteur privé. Mais je pense que les organisations syndicales qui contestent le texte, et je les entends, ne prennent pas suffisamment en compte peut-être l'opportunité qu'ils ont à justement s'approprier le dialogue social. Je pense que le texte, avec sans doute des amendements, je l'ai évoqué avec vous, peut au contraire mobiliser le dialogue social et donner plus de force au dialogue social dans l'entreprise.
Dernière question, Catherine Génisson. Vous avez parlé de vision de droite et de vision de gauche. On peut mettre un pluriel à gauche parce que, notamment au sein du PS, il y a une grosse dissension autour de ce texte. On sent le parti une nouvelle fois au bord de l'explosion, hein. Y compris localement, où le PS à Arras, Thierry Ocre, s'est exprimé. Pour le retrait de cette loi.
Oui, non, mais si vous voulez. Oui, non, mais bon, moi j'ai beaucoup d'amitié et de respect pour Thierry Ocre. On aura le débat en interne. Moi, je ne suis pas du tout pour le retrait du texte, je suis pour la discussion sur le texte, si vous voulez. Et majoritairement, quand même, le Parti Socialiste, par la voix de son premier secrétaire en particulier, soutient le texte, avec cette possibilité, la fonction du parlementaire, c'est de modifier un texte gouvernemental, c'est-à-dire d'apporter des amendements. Le problème, c'est que la minorité s'exprime beaucoup plus que la majorité. Hein, et c'est peut-être à tort de la majorité, d'ailleurs, de ne pas suffisamment défendre le texte avec cette volonté également d'y apporter des amendements. Mais je pense que le débat au Sénat va montrer vraiment la différence entre la droite et la gauche. Hein. Et je pense qu'il y a un moment donné, si vous voulez, nous au Sénat, on a aussi des collègues, des parlementaires qui sont beaucoup plus critiques que je ne le suis sur le texte. Mais néanmoins, il y a de ces parlementaires qui appartiennent à la commission des affaires sociales, mais ces gens-là ont parfaitement intégré, et on a eu un débat où on était tout à fait solidaires les uns et les autres, on se retrouvait unis pour combattre ce que proposait la droite. Je pense qu'on va, si vous voulez, il y a un débat sur le curseur, le niveau de curseur qu'il faut mettre, en particulier sur l'article 2, hein, et sur le sujet de la négociation à l'intérieur de l'entreprise. Mais quand vous avez la suppression des 35 heures, quand vous avez le retour à l'apprentissage à 14 ans, quand vous avez la suppression du plancher des 24 heures pour le temps partiel, quand on sait que c'est vraiment ce qui crée l'inégalité flagrante entre les hommes et les femmes dans le monde du travail, quand on sait qu'ils sont pour faire sauter les seuils sur justement le sujet de l'organisation de la négociation sociale à l'intérieur de l'entreprise, on voit vraiment qu'il y a une vision de droite et une vision de gauche sur le sujet de la vie sociale dans notre pays.